Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et contes.
9h46. Là, tu sais que tu as mis la puce à l'oreille de la majorité de nos auditeurs, dont moi le premier.
Oui, absolument, Mathieu.
Et j'ai reçu des messages, d'ailleurs, de gens qui ont hâte de t'entendre sur l'histoire de Teresita Bassa.
Je dois te dire tout de suite, Mathieu, que l'essentiel de mon narratif de ce matin est tiré des minutes d'un procès. Donc, ce sont des minutes qui ont été déposées en cour de justice à Chicago. C'est le procès opposant Alan Chavary au peuple de l'Illinois. Bon. Alors, écoute, je te ramène, on est dans nos éphémérides du mois de février. Alors, je te ramène, on est le 21 février 1977.
C'est pas une belle histoire de la Saint-Valentin.
Non, c'est pas une belle histoire de la Saint-Valentin. Alors, à ce moment-là, des pompiers, ça se passe à Evanston, en Illinois. C'est une banlieue de Chicago. Oui. Les pompiers sont appelés pour un incendie dans un appartement. Il s'agit d'un édifice, un gros building à appartement. Donc, un incendie dans l'appartement 5A. Donc, ces gens-là se rendent sur place. Les policiers éteignent rapidement l'incendie. C'est un feu qui a été mis visiblement sur un matelas jeté au milieu d'une pièce. Donc, les pompiers éteignent le matelas en question. Et au moment où ils le retirent, ils voient sous le matelas une femme dans la quarantaine, entièrement nue, écartée, et elle a un poignard planté dans l'abdomen. Alors là, on est visiblement sur une scène de crime. On appelle les policiers, on circonscrit cette scène et on a peu d'indices. Ce qui est assez surprenant, c'est que visiblement, en regardant la position de la victime, comme elle est dénudée, on imagine un crime à caractère sexuel.
Ouais.
Le corps est emmené à la morgue. Et là, on va découvrir que la victime, en fait, une dame qui est née aux Philippines, elle s'appelle Teresita Bassa. Elle est née en 1929. Elle a donc 48 ans au moment de son décès. Elle est toujours vierge. Donc, visiblement, l'assassin a voulu faire croire un crime sexuel, mais ce n'est pas le cas. Donc, un meurtre sordide maquillé en crime sexuel. Les policiers, à ce moment-là, n'ont absolument rien. Bon, on interroge, bien sûr. On sait que cette dame travaille comme inhalothérapeute dans un hôpital de Chicago, l'hôpital Edgewater. Et on interroge donc ses amis, ses parents. Rien ne sort qui permet de croire que Teresita Bassa aurait pu avoir un ennemi qui lui en aurait voulu à ce point-là. Pas d'anciens petits copains, etc. Donc, les policiers piétinent. Leur seul indice est un papier trouvé, en fait, un espèce de post-it trouvé dans l'appartement de Teresita Bassa qui dit « 19h30, rendez-vous avec AS ». Mais qui est ce mystérieux AS? On interroge les proches, personne ne semble savoir qui est AS. Donc, l'enquête du côté policier piétine. Et là, attache ta ceinture, on part pour notre petite randonnée. Vas-y. En montagne russe. Alors que les policiers piétinent à l'autre bout de la ville, il y a une dame, une certaine Remeda Schwartz, qui, elle, travaille également à l'hôpital Edgewater de Chicago. Elle n'est pas une amie de Teresita Bassa. Elle est née, elle aussi, aux Philippines, donc elle fait partie de la même communauté. Et lorsque le meurtre de Teresita Bassa commence à circuler à l'hôpital, parce qu'évidemment, toutes les infirmières en parlent, l'une d'entre elles a été assassinée, elle dit, oui, qui est cette Teresita Bassa? Oui, c'est l'inhalothérapeute qui travaillait au quatrième. Ah oui, je l'ai croisée dans les corridors, etc. On s'est salué, mais il n'y a pas de lien d'amitié entre elles. Donc, on parle de ça. Deux semaines après la mort de Teresita Bassa, Mme Chouard, qui fait un double ce soir-là, décide d'aller se reposer une petite sieste d'une quinzaine de minutes dans la salle réservée aux infirmières. Et au moment de se réveiller, elle dit voir devant elle le fantôme de Teresita qui lui tend la main. Ce ne sont pas des amis, ce sont que des connaissances qui se sont entrevues. Mais elle reconnaît Teresita qui lui tend la main. Elle se dit que ça doit être un mauvais rêve. Évidemment, tout le monde parle de l'assassinat de Teresita à l'hôpital. Dans les jours qui suivent, chez elle, elle tombe comme dans une espèce d'état de sommeil, une somnolence, et elle se met à répéter en langage, en tagalog, c'est le langage parlé par le dialecte des Philippines, elle dit « Al, Al, Al », elle répète ça. Et son mari qui écoute ça trouve ça assez curieux. Quand elle parle de Al, visiblement, elle désigne quelqu'un. Donc, on en reste à cette histoire-là. On se dit, bon, un mauvais rêve. Mais deux jours après, elle tombe à nouveau dans cet état de somnolence. Son mari, le docteur Choua, parce que lui, il est chirurgien-dentiste, il est encore présent. Et là, elle dit, toujours dans ce dialecte philippin, Al, c'est Alan. Alan Chauvery m'a tué et personne ne fait rien. Alors lui, il lui demande, mais
fameux
qui...
A.S.
Et là, il lui demande, son mari, M. Choua, demande à son épouse, toujours dans cet état de somnolence, mais qui es-tu? Et elle dit, je suis Teresita Bassa. Donc, à travers le discours, lui commence à prendre des notes. Et là, par la voix de son épouse, qui devient une espèce de canal, elle lui dit, il faut le dire à la police. Mais tu comprends que le docteur Choua se dit, je ne suis même pas appelé la police pour dire...
Ma femme dort,
puis elle raconte des trucs comme ça. Alors, il pense envoyer une lettre anonyme. Mais avant d'avoir le temps de le faire, sa femme, dans une autre séquence, tombe encore une fois dans un état de somnolence. Et elle lui demande, avec cette voix, toujours dialecte philippin, « Avez-vous contacté la police ?» de manière assez agressive. Et il dit « Non, j'ai besoin de preuves. » Et elle lui répond « Alan Chauvery a volé mes bijoux. Et des proches de moi, des amis, des parents, pourraient les reconnaître. » Elle va jusqu'à donner les noms de ses amis, de ses proches, qui pourraient reconnaître les bijoux en question.
Rappelons qu'elle ne le connaît pas. Elle ne connaît pas la victime.
Absolument pas. Alors, éventuellement, le docteur Choua décide de contacter la police. On est le 8 juillet 1977. Il contacte les agents. Deux détectives ont été attachés au dossier.
Attends un petit peu. Je veux pas que tu ailles trop vite. On est au mois de juillet.
Oui.
Donc, c'est quand même il y a plusieurs mois. Là.
Ils se sont écoulés,
effectivement. Pratiquement une demi-année.
Voilà. Donc, le docteur Choua, en est rendu en juillet 1977, il se décide qu'avec toute cette information, il se doit de contacter les policiers. Il appelle donc la police d'Evanston et deux enquêteurs, Joseph Stachula et Lee Aplin. Donc, deux enquêteurs sont chargés de faire la lumière sur le meurtre de Teresita Bassa. Tu comprends bien que le docteur Choua ne leur dit pas au téléphone « Ma femme a des rêves et elle rêve qu'elle est Teresita Bassa ». Il dit simplement « J'ai des informations sur le meurtre de Teresita Bassa ». Les policiers se rendent sur place, ils écoutent cette histoire-là qui semble tout à fait loufoque, mais ils décident quand même d'aller un peu plus loin. D'autant plus que lorsqu'il parle, M. Choua dit « Ma femme », parce que sa femme ne se rappelle de rien. À chaque fois qu'elle sort de cet état de sommeil, elle ne peut pas répéter ce qu'elle a dit. Elle n'a aucun souvenir de ça. Le docteur Choua raconte donc l'histoire et il mentionne bien Alan Chauvery. Et les policiers se disent, c'est mystérieux, Alan Chauvery et cette note laissée chez Teresita Bassa, rendez-vous avec A.S. Alan Chauvery. Il pourrait y avoir une correspondance au niveau des initiales. On décide de regarder qui est ce Alan Chauvery. Et on a un Alan Chauvery listé au service de la police. Ce type a été arrêté et accusé à deux reprises pour viol et agression. Donc, ça le place un peu dans le collimateur des policiers. Il travaille également à l'hôpital Edgewater, là où travaillait Teresita Bassa. Alors, les policiers décident d'aller enquêter sur ce Alan Chauvery. Lorsqu'il est confronté à l'arrivée des policiers, Chauvery reconnaît qu'il connaît Teresita Bassa, mais dit n'avoir jamais mis les pieds chez elle, que ce n'était qu'une connaissance de travail. Les policiers continuent de pousser un peu plus loin le bouchon, lui demandant « Est-ce qu'on pourrait avoir tes empreintes digitales ?» Là, Chauvery change soudainement d'histoire. Il se rappelle être déjà allé chez Teresita Bassa. Et là, quand on lui parle de la note trouvée chez Teresita, il se souvient soudainement que ce soir-là, il devait aller chez Teresita pour réparer son téléviseur défectueux. Mais il s'est pris les pieds dans un bar et finalement n'a pas été visiter Teresita Bassa. Mais tu comprends que l'étau se resserre de plus en plus.
Ah oui.
Les policiers interrogent la petite amie d'Alan Chauvery. Et elle leur répond, oui, quelques jours après la mort de Teresita Bassa, dont elle a lu le compte-rendu dans les journaux, elle dit, Alan m'a apporté deux cadeaux en jade. Un collier de jade et une bague en jade. Les policiers lui demandent si elle accepterait de porter ses bijoux et de venir au poste le lendemain. Ce qu'elle fait, sur place... Évidemment, on ne les a pas dit ni à l'un ni à l'autre, mais on a invité des parents et des amis de Teresita Bassa. Et en voyant cette femme arriver avec les bijoux, ils reconnaissent immédiatement ces bijoux comme ceux de Teresita Bassa. Placé devant le fait, Alan Chauvery avoue être l'assassin de Teresita Bassa. Il dit que c'était pas un meurtre prémédité, il est allé là, il a voulu fouiller dans sa sacoche, elle s'en aperçut, il l'a étranglé, après il a essayé de maquiller le crime. Tout ça va... En 1979, le procès s'ouvre à Chicago. Et crois-le ou non, tout ce que je te raconte là est rapporté dans les minutes du procès. les Shoah, donc ceux qui ont eu les rêves, Monsieur Shoah, vont témoigner, mais pour la défense. Et l'objectif visé par l'avocat de la défense, c'est de dire les policiers
ont agi
sur un fantôme qui parlait au-delà de la tombe. Donc, tout ce qui a été obtenu suite à ces révélations est inadmissible en cour. Ça ne fonctionne pas. Le juge déclare que l'admission par les policiers ou l'acceptation du témoignage du fantôme était tout à fait légale parce que les policiers ont le droit de vérifier toute information qui leur provient, quelle que soit la source. Et dans ce cas-là, si la source était le fantôme...
Ben, puis en plus, il y a un aveu du meurtrier.
Voilà. Et là, mais comme l'aveu avait été obtenu après l'affaire des bijoux, tu comprendras, si on remontait en amont, bon, on se disait, ben finalement, tout ce qui est obtenu après n'a pas de valeur. Finalement, le procès s'est ouvert. Alan Chauvery a plaidé coupable à des accusations de meurtre au second degré. Il a été condamné à 14 ans de pénitencier. Il a fait 5 ans, malheureusement, pour ça. Mais tu comprendras que c'est spécial, la seule fois qu'un meurtrier a été dénoncé par la voix de son fantôme. Et ça, c'est minutieusement rapporté dans les minutes du procès.
Monsieur Page, toujours fascinant de vous entendre raconter ces histoires.
Ça me fait plaisir.
Salut bien, bonne Saint-Valentin.
Toi aussi.
Essaie de ne pas être trop macabre dans tes histoires de Saint-Valentin.
J'essaie.
9h57.